On a donc bien de la belle visite.
Ben oui, c'est
juste
le
pour
fun,
vous
ça,
mettre
hein?
un peu là, dans le. Mettre au parfum de comment ça se prépare un show. On va se relancer plein de fois dans la journée pour ce qui est du show du lendemain. Puis des fois, j'oublie des petits détails. Comme je pensais qu'on jasait au téléphone, encore une fois, avec notre invité ce matin qui est en studio avec nous. Puis c'est un vrai plaisir de l'accueillir. Luc Laliberté est là, qui est chroniqueur au Journal de Québec. Mais là, il faut le dire. Ex-enseignant en histoire des États-Unis et des Amériques au Cégep Garneau. Comment tu te sens d'entendre ça de même?
C'est vraiment... D'abord, je suis content que tu le fasses. Faut, à un moment donné, il faut que la coupure se fasse. Ouais. Mais c'est une grosse partie de moi, ce derrière. Dans ma tête, je suis comme... je rêvais d'être prof. J'ai été dans les chanceux qui ont trouvé un emploi à l'époque où je suis sorti. Donc non, ça va prendre un certain temps avant que je m'habitue vraiment à... Je suis un ex-prof.
Ouais.
Pourtant, c'est pas que je fais pas autre chose.
Non, c'est ça, exactement.
Mais ça a été vraiment une grande partie de ma vie.
Mais tu vas toujours demeurer un enseignant, surtout dans ta présence médiatique, parce que veux pas,
oui.
Il y a toujours la partie historique américaine dans toujours. Les chroniques que tu vas écrire et que tu fais ici à la radio. Là.
M. Trump est particulièrement généreux à mon endroit. Ouais. Donc, c'est pour ceux qui disent Luc Laliberté parle pas souvent en bien de Donald Trump. Il est très bon pour moi parce que dans tout ce qu'il fait, incluant la tournée qu'il vient de faire,
ouais.
Émirats arabes unis, Arabie saoudite, c'est qu'il y a énormément d'histoires derrière ça aussi.
Okay.
Puis pour comprendre à quel point ça fait jaser, on n'a pas le choix de reculer un peu ou beaucoup. Donc, toujours le nez collé sur l'actualité, mais la formation, les outils d'un historien, d'un prof d'histoire, c'est constamment utilisé quand on analyse ce qui se passe présentement.
J'adore tout ce que tu dis, Luc, parce que justement, on va parler de Donald Trump, entre autres, encore une fois, ce matin. Et je voudrais commencer parce que, oui, on va jaser. Je veux qu'on parle absolument de ce cadeau incroyable là, d'un jet de 400 millions. Là. On va y venir. Juste avant, on peut lire dans le Journal de Québec, justement, là, qu'il y a un sondage léger qui nous informe qu'au Québec, on est pas mal divisé sur les résultats de la visite de Mark Carney
ouais.
avec Donald Trump. On le sait, la ouais. première visite officielle. C'est-tu parce qu'il manque de concret comme résultat autour de cette visite-là?
Je pense qu'on s'attend toujours à beaucoup d'une rencontre. Puis dans le contexte actuel, honnêtement, je comprends tout le monde qui espérait de plus gros résultats. Mais effectivement, on oublie d'abord, ce n'est qu'une première rencontre. Les deux hommes ne s'étaient pas croisés là, en chair et en os. Puis ce qu'on voulait, c'est surtout établir une base de dialogue. On voulait voir comment on pouvait initier la relation entre Carney et Trump. Mais on oublie souvent que dans ce genre de rencontre-là, surtout avec le président, c'est très rare qu'on puisse aller très loin. Même quand on avait, parce que les gens se rappellent, c'est peut-être plus près dans le temps, de Barack Obama, par exemple, et de Justin Trudeau. On parlait de bromance. Obama était venu à Montréal manger un smoke meat, si je me souviens bien, avec
oui,
Justin.
Oui, en effet.
Donc, mais ça ne reste que ça. C'est beaucoup d'images, une rencontre avec le président. On espère toujours qu'au sommet, ça va bien se passer. Dans le contexte avec M. Trump, là où je trouve que Mark Carney a tiré son épingle du jeu et c'est pas d'encourager à voter libéral ouais. ou conservateur. Ou...
Non, c'est une analyse. Là.
Voilà, ben écoute, c'est que ça avait beaucoup de chances de déraper parce qu'il est impulsif puis imprévisible, M. Trump. Il s'agit d'un mot parfois pour déclencher une réaction. Parfois, c'est, en très mauvais français, stagé, comme c'était le cas pour Zelensky, mais il est hautement imprévisible. Donc, Mark Carney était capable de jouer un peu avec le sens de l'humour, ça semblait convivial, mais ça ne l'a pas empêché de dire que on n'est pas à vendre. Hein? La Maison-Blanche n'est pas à vendre, le Canada n'est pas à vendre. Les gens ont dit, OK, ce n'est que ça, mais c'est souvent ça.
Okay.
C'est une mini-pièce de théâtre, puis on espère qu'au plus haut niveau, ça se passe bien, parce que c'est tellement ailleurs que ça se joue. Et ça, c'est toujours intéressant pour des gens comme moi d'expliquer ça. C'est correct, on voudrait que les deux hommes, ça aille bien, mais ça se joue au Congrès, à la Chambre des représentants, beaucoup. Ça va se jouer avec les gouverneurs des États. Quand le maire de Québec, ici, est allé aux États-Unis, les gens qu'il rencontre, entre guillemets, c'est des gens plus de terrain que le président des États-Unis, qui est très haut dans la hiérarchie, puis qui souvent n'a pas le détail du terrain à la frontière. Le Minnesota a plus intérêt, par exemple, à négocier avec nous, ou le New Hampshire directement, que le président américain.
Ouais.
Donc, c'est là où je dis, on c'est pas une grande réussite. J'étais pas le lendemain hein, avec le poing en l'air disant « on a gagné quelque... » C'est que ça débute bien.
Ouais, okay.
C'est un marathon, une relation comme ça. Puis, ben, écoute, on n'a pas trébuché en démarrant la course.
Parlant de relations, Donald Trump semble avoir d'excellentes relations en Arabie saoudite et dans les Émirats parce que là, il se fait même offrir un avion de 400 millions pour pouvoir voyager. C'est un peu particulier, là. Il y a des enjeux de sécurité nationale là-dedans.
Ah, peut-être, il peut-tu accepter ouais, ça, c'est vraiment?
Il accepte plein d'autres choses. Et Donald Trump, en fait, est le champion pour exploiter des flous qu'il y a dans la Constitution américaine. Quand on a rédigé ça, et ça, c'est subjectif, mais c'est à partir aussi de mes connaissances sur ce qu'on a fait à l'époque, on n'a jamais imaginé que quelqu'un comme Donald Trump pourrait être à la tête des États-Unis. Et il y a des flous dans les pouvoirs de l'exécutif, dans ce qu'on pensait être un président, le modèle qu'on souhaitait développer. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas pris la peine d'écrire sur papier. Et ça explique, par exemple...
qu'on se disait, ça n'arrivera jamais. Ouais.
Ben voilà. Ou encore, c'est ce que les gens oublient, c'est que les pères fondateurs aux États-Unis, ils voulaient une démocratie, mais ils avaient peur de la démocratie en même temps. C'est pour ça qu'on a développé ce qu'on appelle le collège électoral. Ça mélange toujours les gens aux élections. Mm-hmm. Là, ceux qui ne suivent pas ça, là, on s'informe comme ça à la fin de la journée. Les Américains n'élisent pas directement leur président. On confie un vote à ce qu'on appelle des grands électeurs qui, eux, ensuite vont voter à Washington. Et on a changé les règles du jeu, mais au départ, ces gens-là pouvaient littéralement tous renverser le vote de la population. Ça veut dire la démocratie, oui, mais si le peuple se trompe, on fait quoi? Donc, on s'était laissé comme ça un garde-fou. Ça est la procédure de destitution. Mais c'est très politique, la procédure de destitution. Si on revient à Trump à l'étranger, c'est quand je parle de flou, c'est que, écoute, ça ne s'invente pas, là. C'est mon travail au quotidien, mais les enfants de Donald Trump, ses fils, sont passés partout où lui est passé une semaine ou 10 jours après. Et là, on négocie des ententes pour la crypto-monnaie, ce sont des millions et des millions de dollars. On négocie la construction d'un terrain de golf de 5,5 milliards de dollars pour la Trump Organization. Je veux dire, écoute, il y en a toute une liste des Trump Tower, par exemple, qu'on va construire dans ces pays-là. Et tout de suite après, le président des États-Unis... qui est finalement la Trump Organization, passe, lui, pour négocier au nom des États-Unis, mais parle aux mêmes personnes. Il n'y a aucune subtilité, mais ce n'est pas illégal. Donc, c'est une faille, vous allez dire, c'est monstrueux, c'est gigantesque, ben on parle de milliards de dollars.
Voilà. Puis on se sert de l'influence de Donald Trump pour faire de la business, puis après ça, essayer d'aller chercher des gains politiques.
Et ça fait longtemps que ça pose problème. On en a parlé pour le fils de Joe Biden, par exemple, mm-hmm. Hunter Biden. On en a parlé pour les Clinton. Les Clinton avaient une fondation qui était très généreuse, mais dont on ne contrôle pas non plus l'argent au complet. Mm. Donc, on avait des gens de la fondation Clinton qui passaient, puis ensuite, Hillary Clinton passait comme secrétaire d'État. Avec Trump, tout est toujours plus gros, c'est les sommes dont on parle qui sont énormes. Et là, on arrive à Air Force One.
Oui.
C'est vraiment problématique. Il y a littéralement dans la Constitution là-dessus une clause.
Okay.
Le président ne peut pas accepter de cadeaux. Donc, c'est très clair. C'est écrit comme ça, noir sur blanc, mot pour mot. Comment se fait-il que Trump peut accepter ça?
Et où la crosse?
Voilà! Exactement! Bonne formulation! Donc, la crosse, comme tu dis, c'est... D'abord, le président dit, c'est pas un cadeau pour moi, ça va être un cadeau pour le Pentagone. Ah. On va avoir un appareil flambant neuf. Est-ce que le Pentagone a besoin d'autant de luxe? Ça, c'est l'autre chose. Donc, c'est 400 millions de dollars. Mais des gens, partant, ils disent, ça va aller au Pentagone. Mais là où on pousse le bouchon pas mal, c'est qu'en plus, cet avion-là s'en irait en plus. Une fois que Donald Trump aurait terminé de l'utiliser, le temps de l'équiper, là, il va s'en servir peut-être un an si on a terminé. Mais ensuite, ça s'en va à la bibliothèque Trump. Et là, on est dans un flou juridique encore plus grand. Ouais. Les bibliothèques présidentielles acceptent des millions de dollars. C'est vrai pour Clinton, c'est vrai pour Obama. Obama joue très, très transparent. On sait qui donne, quel montant. Mais reste que c'est de l'argent, entre guillemets, qui nous échappe, sur lequel on n'a pas de contrôle, si on pense à un ancien président. Et là, ça veut dire que la fondation, pas la fondation, la bibliothèque, pourrait récupérer l'avion et que Donald Trump pourrait s'en servir à des fins personnelles dans ce cadre-là. Tu parlais de crosse, c'est énorme. Ceux qui peuvent bloquer actuellement Donald Trump, c'est ceux qui ne lui demandent même pas de respecter les pouvoirs qu'eux ont. Ce sont les élus du Congrès. Et ils sont majoritaires, les républicains. Eux auraient très, très bien le droit de se lever puis de dire « Non, non, vous prenez pas ça, cet avion-là. » Ils ont le pouvoir de le faire. Tout comme ils ont le pouvoir de dire pardon à Donald Trump, tu n'imposeras pas les tarifs que tu imposes parce que le pouvoir d'imposer des tarifs, c'est un pouvoir qui revient au Congrès, sauf dans des cas rarissimes, d'urgence nationale. Puis vous aurez remarqué à quel point, quand on joue sur les mots, Donald Trump utilise urgence nationale pour n'importe quoi. Le Canada est devenu une menace à la sécurité nationale.
Avec le fentanyl.
Voilà. Ben oui, puis pour combien de... Quelle est la quantité?
Ouais, c'est ça. Même pas 1%.
Et comparativement à ce que les Américains font entrer chez nous, ce sont les gros consommateurs et il en circule énormément. Puis pour en finir avec Air Force One, vraiment désolé ce matin, pour en finir avec Air Force One, c'est toutes les mesures de sécurité. C'est... On expliquait que pour que cet avion-là puisse entrer aux États-Unis comme avion présidentiel, il faudrait, pardonnerai le terme en anglais, stripper l'avion au complet pour s'assurer qu'il n'y a rien qu'on ait pu placer donc à l'intérieur de l'avion pour obtenir des renseignements sensibles des États-Unis. Donc, on parle de plus d'un milliard de dollars de travaux pour que cet avion-là soit utilisé de manière sécuritaire. Mais le président a le droit de dire « je le veux ».
Parlant de sécurité nationale, justement. Puis, tu sais, il n'y a pas de cachette, Luc, dans ça. Pas du tout. Je pense que tout le monde voit clair dans le jeu que si tu donnes un cadeau de 400 millions de dollars, tu vas vouloir quelque chose en retour, là.
Oui, bien, puis le pire, c'est qu'on a là, quelque chose en retour. Quand on vous négocie un terrain de golf pour 5,5 milliards de dollars, si ça, c'est pas quelque chose en retour... Et il y a une chose que je peux pas reprocher à Donald Trump, c'est que parfois, on suspecte... Il n'a pas inventé la corruption en passant en politique américaine. Hein? Il y a un long historique. Faut pas mettre tous les politiciens dans le même bateau non plus, dire ils sont tous corrompus. Mais il y en a eu avant. Mais à cette échelle-là, et si je, et quand je dis... je peux pas lui reprocher... Il fait ça, c'est totalement transparent.
Ouais,
je veux dire,
ça
n'a jamais été gros comme ça, un pot de vin. Là. Je veux dire, il fallait enquêter avant pour voir ça. Là, c'est comme.
Là, c'est un avion présidentiel.
Non, ça fait vraiment, je fais ce que je veux quand j'en ai envie, puis venez me chercher.
Luc, je sais que tu es attendu pour Salut, bonjour. En terminant rapidement, est-ce que c'est dangereux la politique internationale que Donald Trump impose à l'heure actuelle, qui est une politique transactionnelle? T'sais, je m'en vais là-bas, je vais aller chercher du 300-400 milliards de dollars, puis moi, je vais t'en redonner après plutôt que des relations, de la démocratie, de la sécurité.
Vous n'avez pas idée à quel point il joue à courte vue dans ce qu'il fait présentement. Il est en voyage dans une région qui est très, très, très sensible, qui est une véritable poudrière. Il se rapproche de gens, il s'éloigne d'autres, il tente de jouer sur tous les tableaux, mais on n'est pas capable de dégager une vision à long terme autre que le cas ou l'argent.
Ouais.
Donc, quand il s'en va en Arabie Saoudite ou qu'il s'en va au Qatar, c'est des pays, là, ils n'auront pas de problème de stabilité économique pour des décennies. Là. Donc, il y a de l'argent, il y a des liquidités, ça, on le comprend. Et ça peut même être à court terme bon pour les États-Unis. Mais si on pense à une perspective internationale, puis à cette région-là en particulier, c'est explosif. Ça prend une vision à long terme. On n'a pas le choix de jouer parfois à ce qu'on appelle les jeux diplomatiques. S'il y a des choses qui se passent parfois en coulisses, c'est pour être en mesure justement d'assurer une certaine stabilité.
Ouais.
Il a laissé tomber complètement ce qu'on appelle le soft power aux États-Unis, c'est-à-dire les opérations charmes des États-Unis qui donnent des vrais résultats comme intervenir en santé. On sait qu'il a fait fermer ce qu'on appelle USAID, USAID. Donc, ça présente un bon visage des Américains. Ça met des gens de leur bord à l'échelle internationale. Puis en même temps, on offre de véritables services. Mais il a laissé tomber tout ça. Donc moi, je trouve qu'il joue ça à très, très court terme, qu'il n'a pas de perspective. Est-ce que ça va être bon? L'avenir va nous le dire. Mais je trouve que c'est très, très, très risqué. On est à un niveau de risque qu'on n'a pas vu souvent en politique étrangère américaine.
Luc, la liberté, c'était un immense plaisir de t'accueillir pour une première fois en studio avec nous à Rage Against the Machine.
C'est partagé, messieurs. On s'est parlé plusieurs fois au téléphone. Et là, je me disais non. Ce matin... Nouveau, fraîchement retraité, ça veut dire que mes matins sont plus calmes un peu.
C'est vrai.
Ben, je dis pourquoi pas aller passer ça en studio.
Alors on va pouvoir le refaire plus souvent.
Super.
Vous pouvez aussi le lire régulièrement dans le Journal de Québec, il fait un job formidable. Luc, merci beaucoup pour ça ce matin, on se reparle très bientôt.
Une bonne journée à tout le monde, au
plaisir. Salut, merci.
Le